Donc, pour commencer et pour introduire ce travail donc, qui a été fait, donc, le feu, la brousse et la savane, pour moi, c'est effectivement, ça aurait pu être des objets, on va dire, pris seulement de manière un peu biophysique, naturaliste, parce que j'avais un parcours écologue, mais ce qui m'a vraiment plu, c'était en fait de sortir un petit peu de cette lecture qui domine très clairement le champ scientifique de ces espaces tropicaux, où à chaque fois on parle un petit peu de la nature et on oublie assez souvent, c'est caricatural, mais quand même c'est présent, les personnes qui produisent les paysages que l'on observe dans ces pays. Donc la brousse, le feu, la brousse et la savane sont vraiment des objets clés dans cet exposé pour comprendre la mutation des paysages soudaniens. Donc quand les paysages soudaniens, ça parle peut-être pas aux non-africanistes, mais je vais vous le présenter par la suite, c'est vraiment un domaine biogéographique, mais aussi un domaine, on va dire, de territoire, de type de système de production assez particulier, dans lequel le feu est assez important. Donc le feu, c'est bien sûr un outil très important de la paysannerie partout. Donc on a fait notamment parler ce midi de François Cigaud, qui est quelqu'un d'assez connu pour les espaces et sur la technique du feu. Ici, dans cet exposé, on parlera effectivement du feu comme outil de gestion des espaces ruraux, mais ça sera essentiellement des feux extensifs, liés notamment à des pratiques d'élevage. Donc c'est surtout ça dont on va parler, mais il est aussi présent pour des pratiques de chasse encore très fortement présentes, et puis aussi évidemment des feux plus intensifs, mais plus localisés, dont je ne parlerai que très peu aujourd'hui, qui permettent notamment de faire des défriches sur certains champs. Donc pour préciser, nous allons parler des feux, pas comme sur des domaines d'abatis brûlis, là c'est vraiment des feux liés sur des parcours essentiellement pastoraux. Et puis cette approche, on pourrait dire, qui est très matérielle, elle est aussi très importante. Et moi, c'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup intéressé de devenir géographe, parce que maintenant, je me revendique beaucoup plus géographe. C'est qu'il y a une partie aussi des feux qui est extrêmement importante pour comprendre les évolutions des politiques publiques liées à l'environnement, notamment. C'est que c'est vraiment un archétype des discours de crise qui sont portés sur les campagnes, sur l'ensemble du globe. Alors, je vous ai mis trois petites illustrations ici qui montrent notamment trois périodes du feu présent sur l'Afrique subsaharienne. La première, on va dire, qui est très liée à une période d'isation avec l'arrivée notamment de l'administration coloniale, donc 1890 notamment pour les zones du Burkina où je suis. Donc, la partie en fait qui est liée à ce que j'ai appelé la savanisation, où le feu est condamné en fait parce qu'il va générer de gros problèmes pour l'administration coloniale qui cherche à conserver une ressource forestière très importante pour produire en fait des ressources ligneuses. Donc là, le feu est condamné, les paysans sont décriés comme des gens qui ne savent pas gérer l'environnement, etc. Et puis à partir des années 60, c'est les indépendances aussi pour ces États d'Afrique subsaharienne, il y a une autre phase qui va être la modernisation où, au final, le feu, là, va pas forcément être condamné pour son rôle vis-à-vis de l'environnement directement, mais vraiment va être condamné comme un outil, en fait, de société paysanne archaïque. C'est-à-dire que le feu, ça serait un outil très archaïque, etc. Et donc, on le retrouve très bien dans les textes. Et encore une fois, on va dire, le feu est combattu et leur utilisation par les paysans est complètement reléguée comme anachronique, etc. Et puis, une dernière phase, ce que j'ai appelé un peu l'écologisation, qui dépasse le cadre du Burkina, où là, un revirement très très important, après plus d'un siècle de combat entre les paysans et les politiques publiques, qu'elles soient de l'administration coloniale ou par la suite même des États comme le Burkina Faso, eh bien le feu va devenir un nouvel outil en fait au service de la gestion des espaces ruraux, qui va même devenir un outil un petit peu et un symbole de la bonne santé des écosystèmes de ces campagnes. Alors, vous n'avez pas le fond. Et puis, donc ça, c'est pour préciser pourquoi j'ai pris le feu comme objet un petit peu traceur, révélateur de ces mutations. Et puis, la brousse et la savane, alors deux termes que j'ai mis un petit peu en opposition, justement pour montrer que sur ces objets, sur ces espaces de savane et ces espaces notamment pastoraux, eh bien, il y a des regards complètement différents, avec un regard plutôt paysan, la brousse sur la gestion, on va dire, des communautés villageoises de tous les pourtours de finage et de terroir, si on en parle de manière plutôt africaniste. Et puis, aujourd'hui aussi, un regard très important lié à la protection de l'environnement, où là, on va plutôt parler des espaces ruraux comme un potentiel lieu de ressources, mais plutôt vraiment comme un fonctionnement écologique majeur du globe et qui dénie encore une fois de plus le rôle des paysans à produire cet environnement et ces paysages. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc c'est cet axe de recherche. Donc, c'est bien une lecture géographique de ces changements. avec un regard fortement porté sur les enjeux spatiaux de ces évolutions, révélateurs, les feux à la fois le côté symbolique et puis aussi un défi, puisque c'est un élément qui est très dur à comprendre, et je vais l'expliquer par la suite, et à saisir dans l'espace et dans le temps, puisque à la fois pour les administrations, c'est dur de le contrôler dans les politiques publiques, mais c'est très dur aussi à observer où est-ce qu'il y a des feux, à quel moment, etc. Donc pour cette présentation, je vous propose trois parties. Une première partie qui va vous dresser un petit peu le contexte de ces campagnes dans lesquelles j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre un petit peu comment les paysages qu'on observe aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils viennent et quelle est un peu leur genèse aujourd'hui, et notamment sous l'effet de l'évolution très forte impliquée par l'arrivée du coton. Et puis après, je parlerai sur les feux de brousse. Et puis pour finir, comme on est dans un colloque pluridisciplinaire, j'essaierai d'avoir quelques petites pistes, sur mon parcours un petit peu pour essayer de rentrer en résonance avec d'autres disciplines et les questions qui m'ont intéressé. Donc pour commencer, j'ai intitulé donc les brousses oubliées des campagnes cotonnières, parce qu'on va voir que petit à petit, en fait, la région où j'ai travaillé, donc, qui est l'ouest du Burkina Faso, donc qui se situe vraiment en Afrique subsaharienne, c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer du coup, eh bien on va se rendre compte que toutes les études qui sont portées, notamment dès l'arrivée de l'administration coloniale, se sont focalisées essentiellement sur la production et sur la sorte de mise en valeur des terres de cet espace-là. Donc je renvoie notamment à un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Le coton des paysans » d'un géographe rural américain qui s'appelle Thomas Bassett, je ne sais pas s'il y en a certains qui le connaissent, c'est un ouvrage extrêmement intéressant sur ces espaces ruraux ouest-africains qui explique très bien en fait le lien entre les paysanneries et puis les administrations qui se succèdent depuis un siècle sur ces espaces. Donc lui, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est un contexte assez similaire où c'est donc l'ouest du Burkina Faso qui se situe juste ici. C'est, pour rappeler, la première zone économique du Burkina Faso. Burkina Faso qui est reconnu pour sa production cotonnière à l'échelle du continent africain. Un domaine soudanien. Alors, domaine soudanien, ça veut dire que c'est en gros une région où il pleut 800 mm par an, pour vous donner des ordres de grandeur, sur une saison de pluie qui s'étale de mai à octobre. C'est une région extrêmement complexe d'un point de vue des communautés rurales, puisqu'elle se structure en différentes ethnies. Alors après, aujourd'hui, on parle énormément dans les conflits ethniques qu'on peut avoir dans les médias, etc. Donc là, je vous ai mis une petite carte, notamment différentes zones ethniques qui existent. Ça, c'est, on va dire, une empreinte, mais il ne faut surtout pas oublier que ça va être un lieu extrêmement important de colonisation agricole, où il y a une autre ethnie qui va arriver, ce qui sont les Mossi, qui viennent du nord, et qui vont irriguer petit à petit, s'intégrer dans toutes ces communautés villageoises dites autochtones. Donc c'est une empreinte, mais il ne faudrait surtout pas croire que ce sont des régions complètement autonomes, etc. Il y a énormément d'échanges qui se traduisent notamment par des traditions orales et tout ce qui est lié à la plaisanterie, qui est extrêmement important dans ces zones d'Afrique de l'Ouest. Et puis un dernier élément important pour comprendre la région sur laquelle on va discuter aujourd'hui, c'est que certes c'est une région agricole, paysanne essentiellement, mais il y a depuis l'administration coloniale qui a mis en place des grandes zones que vous avez ici en hachure, ce sont des zones protégées qui ont été érigées en 1936 essentiellement. Ce sont des immenses régions qui sont aujourd'hui des territoires protégés en fait où il n'y a pas du tout de traces de l'agriculture, essentiellement pour défendre des positions de conservation de la nature. Alors voici un aperçu un petit peu pour vous montrer de quoi on va appeler. Donc là, véritablement, un paysage caractéristique assez plan. Hein, je suis sur un petit plan relevé. Donc avec des arbres qui sont les carités, qui font, en fait, c'est vraiment le parc arboré, avec en dessous un petit parcellaire avec des parcelles aux alentours, souvent moins de 1 hectare, avec le coton, le maïs, le sorgho, qui sont les, on va dire, trois principales cultures présentes dans ces espaces-là. Avec, dans le parc arboré, le karité qui, traditionnellement, comme ce sont des sociétés de cultivateurs, apportait la graisse végétale, puisqu'il n'y avait pas forcément d'élevage. L'élevage était arrivé dans cette région-là qu'en 1985. Les premiers bœufs associés dans le système de culture, c'est 1985. Auparavant, il y avait des migrations, des peules, etc., mais c'était relativement rare. Donc si je parle de brousse oubliée, c'est parce que cette région ouest, cette grande région ouest, elle focalise toutes les attentions et toutes les études scientifiques se portent sur le développement rural et sur, on va dire, la genèse du coton, comment est-ce que ça se passe. Donc là, je vous ai mis une courbe notamment avec les statistiques sur les trois principaux, surtout les pays limitrophes du Burkina Faso, qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire et l'évolution un petit peu des statistiques de production et de rendement de ces trois pays. Et aujourd'hui, en fait, le Burkina Faso est le premier producteur de coton de l'Afrique même entière aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement présent. Ce coton, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il fonctionne pour les paysans sur un système de rotation et de lien aux filières, notamment étatiques, où c'est un système d'emprunt, où les filières, les coopératives agricoles font crédit d'intrants aux paysans. Donc les paysans contractent une masse d'intrants. Et au retour, c'est-à-dire à la récolte, il y a une déduction en fait, de ce crédit apporté par les intrants qui fait. Et ça, c'est extrêmement important dans tout le fonctionnement des systèmes agricoles, puisqu'il irrigue l'ensemble des paysages et des pratiques aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle donc dans le temps, je pense que chez les historiens, il manque toujours beaucoup de données. Pour les géographes, travailler sur des espaces ruraux, c'est assez compliqué, parce qu'il y a très peu de statistiques, très peu de données, si ce n'est des données régionales, comme je vous ai montré, là, globalement par région. Mais dès qu'on veut approcher les communautés villageoises, les structures, le paysage, le finage, etc., il n'y a quasiment rien. Donc là, c'est un des premiers essais dans ma thèse, en fait, où j'ai récupéré des statistiques nationales qui sont produites non pas pour comprendre comment on pourrait avoir en France un peu les systèmes agricoles, etc., mais c'est vraiment des statistiques qui, au départ, sont produites pour comprendre un petit peu les crises alimentaires potentielles. On est encore dans une statistique, une organisation des institutions qui est liée à l'essor et à la tentative de rentrer dans l'autosuffisance alimentaire nationale. Et ces statistiques permettent néanmoins, quand on réussit un petit peu à les arranger, pour aller dans les détails s'il y a besoin, de montrer la place du coton sur les principales cultures, le coton que vous avez en blanc, le maïs, donc très très important, le mil et le sorgho qui sont les céréales qui permettent essentiellement la nourriture. Donc ça, c'est les quatre grandes structures, les quatre principales cultures. Le coton qui imprime sa marque dans les paysages, ou du moins dans les statistiques, comme on peut le voir, puisque vous avez dans le graphique notamment, qui est juste ici, en fait, là, j'ai pris la taille des les différentes parcelles avec les différentes cultures, et on voit en fait, par rapport à la moyenne qui se situe ici, que le coton contracte vraiment une taille vraiment beaucoup plus importante. C'est le coton se fait essentiellement sur des grandes parcelles. À l'inverse, vous avez l'arachide ou le niébé, qui sont des cultures un petit peu qui se font en fin de cycle, où les terres sont très appauvries, qui se font sur des petits parcellaires beaucoup plus petits. Donc le coton vraiment imprime sa marque. Autrement, comme élément de repère, ce qui est assez important à comprendre, c'est que c'est une agriculture familiale. Cette agriculture familiale, elle est très peu motorisée. Donc vous avez ici dans les différentes statistiques que j'ai vues sur la région ouest, notamment, vous voyez, la part de ce qui est labouré par la motorisation, c'est infime. La plupart du temps, c'est associé à des bœufs de trait. C'est extrêmement important. Donc voilà un petit peu pour préciser ces paysages agricoles, comment ils fonctionnent. Sur les successions culturales, pour faire un schéma assez simple, les intrants associés au coton permettent une première culture, puis derrière, il y aura les céréales qui vont être mises, puisqu'elles vont bénéficier un petit peu des intrants qui ont été mis par la suite. Donc c'est extrêmement important, parce que au-delà de dire que ça imprime une marque, ça structure l'ensemble aussi du cycle des successions culturales chez les agriculteurs. Enfin, un dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est que dans ces espaces-là, il n'y a pas la propriété privée. Donc ça change tout, et c'est un système, c'est pour ça que j'ai incité dans le titre, un fonctionnement local des systèmes fonciers, parce que c'est par communauté, par village, et un chef des terres qui attribue des droits d'usage pour des terres, et le droit ne s'obtient en fait que lorsqu'on travaille la terre. À partir du moment où on arrête de travailler la terre retourne dans la communauté villageoise, sous un ordre plutôt animiste qui est entendu comme, voilà, c'est une terre nourricière qui ne peut être vendue ni cédée. Et les agriculteurs y tiennent encore énormément, malgré les impulsions de l'État et différents organismes internationaux, à tenter d'impulser un petit peu une dynamique pour privatiser pour imposer un parcellaire en propriété privée. C'est plutôt celui-là. Donc si on fait, ici j'avais fait une brève statistique, on parle d'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, mais au final il y a différents types d'exploitation. Alors ici vous avez en fait un tableau avec à chaque fois les superficies par personne. Donc vous voyez en gros, souvent le ratio est autour de 1 hectare par personne active. Donc, ce sont des petits systèmes avec au maximum des exploitations qui vont faire, on va dire, 30-40 hectares, grand maximum. L'âge du chef de famille est extrêmement important. On a un cycle des exploitations avec au départ des petites exploitations qui grandissent avec la main d'œuvre et puis qui, petit à petit, vont redescendre, et dans laquelle, à chaque fois, on trouve, malgré différents types, une part du coton plus ou moins importante. Très importante en début de cycle, et puis après, petit à petit, cette culture va devenir moins importante au fur et à mesure que le cycle d'exploitation avance. Et donc, pourquoi aborder ces statistiques-là? C'est que un des problèmes pour le géographe, c'est que lorsqu'on veut analyser l'espace et les paysages, c'est impossible ou quasiment impossible d'avoir en fait les cultures qui sont associées à ces paysages-là, parce qu'on n'a que des images et des photographies pendant la saison sèche, lorsqu'il n'y a pas de nuages, mais c'est aussi quand il n'y a pas de culture, ou quand c'est les semis ou les récoltes. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre un petit peu comment se structurent et quelles sont les logiques paysannes dans ce parcellaire. Donc vous avez ici un petit peu une région où vous avez la ponctuation des toutes petites du parc arboré avec l'ensemble des parcelles, et puis quelques zones en fait de jachère un petit peu résiduelles qui existent, parce qu'on est bien dans un système de culture jachère sur la culture pluviale. Et puis ici un petit aperçu de l'habitat essentiellement et toujours en banco avec un habitat très groupé pour la zone Boaba que j'ai plus particulièrement étudiée. Et donc, ce qui était important et les choses qui m'ont beaucoup intéressé et pourquoi aborder la question des brousses et de la savane, c'est que dans cet espace qui est une zone économique importante, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, comme c'est un ancien front pionnier, petit à petit, la démographie, on est passé de 5 habitants au kilomètre carré à peu près dans les années 50, à aujourd'hui plus de 60 habitants au kilomètre carré. Et ce qui fait que ça pose des gros problèmes, on peut se dire mécaniquement, sur le cycle culture jachère, parce qu'il y a une densification de l'espace rural très important qui ne permet plus en fait d'alimenter ce cycle culture jachère et qui pose de gros problèmes d'adaptation en fait des paysans à cette saturation spatiale. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre, et c'est ça qui focalise, on va dire, toutes les attentions, et même y compris, il n'y a pas énormément de recherche sur ces espaces ruraux, il faut bien le dire, mais dès qu'on parle de ça, c'est un des leitmotifs très importants, c'est cette saturation spatiale et cette problématique des paysans, comment est-ce qu'ils réagissent face à ça. Et donc, en tant que géographe, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre un petit peu cette disparition annoncée des brousses et donc des jachères qui sont associées. Effectivement, ça, on peut comprendre que ça peut poser des problèmes, mais ce qui est très important, c'est est-ce que cette régression qui justifie énormément de nouveaux aménagements, on va en parler dans la deuxième partie, est-ce qu'elle est vraiment si générale, puisqu'on est dans un système de communauté locale, comme je vous l'ai dit, alors est-ce que partout on observe ce phénomène-là, ou est-ce que c'est que dans certains endroits? Et puis, est-ce que les aménagements, les réservoirs, les aires protégées, elles sont si soumises à une pression plus importante des agriculteurs qui viendraient petit à petit aux portes des réserves pour la conservation de la nature et seraient un petit peu des gaspilleurs de terre? C'est extrêmement important aujourd'hui dans la presse, où tout le monde les présente vraiment comme des gaspilleurs de terre. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était un travail justement d'analyse de l'évolution spatiale des brousses. À partir de 1952, c'est d'avoir un recul historique un petit peu pour questionner cette question aujourd'hui qui fait toujours et qui occupe tout l'espace un petit peu scientifique. Comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu la genèse de cet espace aujourd'hui qui va vers la parcellarisation? Et donc, c'est toujours un lien entre l'analyse spatiale et puis un peu les enjeux locaux que j'ai essayé de produire. Alors, dans les travaux que j'ai faits, même si on ne peut pas toujours avoir les cultures, etc., ce qui a été important pour moi, ça a été de retracer un petit peu. Donc, en noir, je n'ai pas travaillé sur l'habitat, donc ce sont des petits masques que j'ai mis, mais vous avez ici à peu près 10 villages autour d'une aire protégée que vous avez ici, qui apparaît plutôt en vert. Donc, qui est hérité de l'administration coloniale, essayer de comprendre un petit peu comment l'agriculture, l'agriculture c'est du moins pour l'instant les espaces cultivés, avaient augmenté pour arriver à la situation aujourd'hui qu'on appelle de saturation, où il y aurait une sorte de blocage qui générerait des conflits entre les agriculteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que, d'une part, ça permet de voir un petit peu les évolutions à la fois en termes de quantité, où on voit progressivement comment l'espace agricole empiète petit à petit sur les espaces périphériques. Et puis, ça permet aussi de voir d'autres choses. C'était notamment qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien de cultivé dans cet espace protégé, mais dans les années 67, 80, 93, il y a un ensemble de zones très importantes qui étaient cultivées en fait dans ces espaces protégés et qui étaient inscrits juridiquement depuis 1938. Ici, vous avez le graphique avec le nombre d'hectares cultivés de 1952 à 2007, une augmentation assez linéaire, avec les points verts, les recensements que j'ai réussi à retrouver dans les archives des villages, parce qu'il y avait un recensement assez fin malgré tout, qui est dur à trouver, mais on les retrouve, de la population dans les villages. Et on voit en fait qu'il y a une sorte de relation quasiment linéaire en fait, entre l'augmentation de l'espace agricole et la démographie. Alors, il y a une analyse auquel il faut faire attention, ça serait de croire qu'il n'y a pas eu de changement dans le système. Il y a eu des changements très très profonds. Il ne faut surtout pas croire que ça s'est fait sans mutation au sein des systèmes de culture, puisque notamment à partir des années 85, il y a l'arrivée dans des sociétés de cultivateurs de l'élevage qui va petit à petit apporter de la fumure dans les systèmes de production. Donc ça va complètement permettre une augmentation des rendements. Ça va aussi se faire en lien avec la proximité à Bobo-Dioulasso, Lasso, où il y a une agriculture commerciale qui va commencer à arriver à partir des années 95-2000. Donc, voilà, cet espace agricole, effectivement, augmente, mais ça se fait vraiment avec une profonde mutation des systèmes, où aussi on parle d'une agriculture avec des grandes familles qui étaient très liées au système foncier, où petit à petit, il y a une nucléarisation avec plein de petites familles, en fait, qui maintenant ont plutôt 5 hectares, 6 hectares par exploitation. Les formes, c'est intéressant, me direz-vous, mais ça ne suffit pas pour comprendre complètement un petit peu les logiques et comment les personnes vivent ces changements profonds des paysages et de l'agriculture. Donc c'est pour ça que, notamment, j'ai essayé d'aller voir un petit peu chez les agriculteurs, un petit peu sur ces différents espaces. J'ai produit des enquêtes en essayant un petit peu de vous montrer. Vous voyez, j'ai fait une phase sur 30 agriculteurs. Avec ici, vous avez le nombre d'actifs dans l'exploitation, qui vont de 5 à 20 à peu près, avec le nombre d'hectares cultivés par exploitation. Ça vous donne un petit peu une idée. Avec des tout petits systèmes avec 5 exploitants, 5 hectares en gros. Ça, c'est vraiment la petite agriculture familiale que l'on observe en majorité. Mais il y a aussi des exploitations familiales agricoles, vous voyez, avec une main-d'œuvre importante et des grandes surfaces. C'est l'héritage, si vous voulez, des années 60 avec les grandes familles, avec les enfants qui cultivent toujours ensemble. Il n'y a pas eu de scission dans l'exploitation familiale. Et puis aussi l'arrivée beaucoup plus récente, de systèmes beaucoup plus intensifs, avec beaucoup moins de main-d'œuvre, l'arrivée des ouvriers agricoles sur cette exploitation-là que je mentionne ici, avec des grandes surfaces et beaucoup moins d'actifs. Donc voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Des exploitants qui venaient, comme c'est une zone de colonisation, de toute la zone nord du Burkina Faso, une zone sahélienne beaucoup plus sèche, qui viennent du coup coloniser dans ces terres beaucoup plus fertiles, beaucoup plus arrosées. Et ce qui m'a intéressé, en fait, c'était de comprendre un petit peu, derrière ces formes qui évoluent, nous, on l'observe comme des potentiels de blocage, etc. Mais comment est-ce que, eux, les agriculteurs, le lisent? Comment est-ce qu'ils lisent ces paysages? Et quand on fait un échange avec eux, qu'est-ce qu'ils nous font ressortir un petit peu de leur vécu? Et ça, je l'ai fait notamment en décrivant à travers des entretiens dans les champs. Alors, l'entretien dans les champs, c'est un avantage extrêmement intéressant quand on est avec des personnes qui ne parlent pas le français, avec énormément de dialectes et différents. On a des interactions, en fait, pour montrer, quand on parle des jachères, on peut montrer du doigt, etc. Donc j'ai essayé de m'intégrer un petit peu dans le paysage pour éviter ces biais de traduction, les longueurs parfois de l'entretien. Je les ai fait décrire les terres par le toucher avec eux, en essayant de comprendre un petit peu pourquoi ils cultivaient comment est-ce qu'ils percevaient la terre. La description des jachères, parce qu'effectivement, dans cette logique un petit peu malthusienne où on croit qu'il y aurait toujours plus d'habitants et puis il y aurait un blocage à la fin, eux, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent, cette peur un petit peu de la fin de la jachère? Et puis aussi, d'essayer de comprendre un peu comment ils se positionnaient sur les changements agricoles. Qu'est-ce qui était pour eux les marqueurs des changements agricoles? C'est-à-dire que nous, on fait une histoire un petit peu, normative avec l'arrivée de l'élevage en 85 dans les villes, etc. Mais eux, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui est vraiment porteur de sens dans le changement agricole? Alors, ça, c'est toujours couplé, les représentations, avec l'espace dans mon travail. Je l'ai fait notamment en essayant de comprendre. Certes, on voit qu'il y a une saturation, mais si on regarde derrière la saturation, donc ça, c'est une carte qui présente, je ne vais pas expliquer toute la méthode, mais qui permet de montrer, en fait, tout ce que vous avez coloré, c'est tout l'espace cultivé. En gamme chaude, ce sont toutes les terres qui sont cultivées. Plus ça va vers les couleurs très chaudes, donc vers le rouge, plus ce sont des terres cultivées depuis très longtemps, donc où le potentiel de fertilité pourrait potentiellement être le plus bas. À l'inverse, toutes les zones bleues sont des zones qui sont remises en jachère. Et donc ça m'a questionné énormément, parce que derrière la description un petit peu de la saturation et de l'extension et de l'intensification agricole, parce qu'il y a double mécanisme dans ces campagnes-là, et bien en fait on s'aperçoit que il y a quand même des jachères qui existent, et un cycle culture jachère qui est peu présent, mais qui persiste dans cet espace qui est soi-disant très saturé à premier abord. Donc dans l'analyse du discours, une analyse statistique assez simple, je vais passer assez rapidement, mais sur la description de la jachère des terres et le positionnement par rapport au changement agricole, chez ces agriculteurs, en fait, on peut apercevoir deux grandes catégories simples, une opposition qui n'est pas si simple que ça, mais du moins ça m'a permis de voir ça, c'est qu'il y a un héritage toujours très présent chez certains agriculteurs de la pratique itinérante, héritée du système culture jachère. Pour eux, le changement agricole qui relevait le plus souvent, c'était la culture attelée, l'arrivage, l'animal, la force animale comme vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et ils décrivaient la terre essentiellement pour les propriétés physiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est caillouteux, est-ce que ça blesse les sabots des animaux? Ça, c'était vraiment des choses extrêmement importantes. Et puis, de l'autre côté, des personnes pour qui, au final, ce que j'ai appelé les modernes, bon, avec, j'ai bien mis des guillemets, hein, qui sont vraiment, eux, pas du tout dans cette préoccupation de la fin des brousses et de la jachère. Ils sont déjà passés autre part, dans un autre système. Ils ont basculé avec une utilisation très importante des intrants. Ce n'est pas la culture attelée pour eux, même quand même ils l'utilisent, qui est le changement agricole. C'est bien l'arrivée des intrants, de la fumure, mais aussi des intrants NPK par les coopératives agricoles. Et puis la terre, ils ne le décrivent pas du tout pour les propriétés mécaniques. Et ça, c'était assez impressionnant. C'était très, très net. C'était la terre et la fatigue, comme il me disait. C'est-à-dire, c'était le temps de culture qui les préoccupait. C'est-à-dire que plus il y avait un temps important, plus effectivement la terre était fatiguée. Donc on voit qu'il y a un lien très fort, du coup, entre les gens, où est-ce qu'ils s'insèrent, et puis comment est-ce qu'ils se représentent un petit peu les dynamiques environnementales. Et donc ça, pour moi, c'est une des choses très importantes pour le côté un peu pluridisciplinaire, justement, c'est de faire ce lien entre ces représentations, puis comment ça conduit aussi à traduire des pratiques certaines manières. Alors pour le feu, par contre, on va en reparler après, c'était très difficile de discuter avec eux, je reviendrai par la suite. Mais derrière ces grandes... Je vais un petit peu avancer pour... Voilà, hop, pardon. Derrière ces grandes catégories, assez simplistes dans un premier temps, j'ai ensuite conduit, en fait, parce que ça ne me satisfaisait pas tout à fait, en fait, cette analyse, un observatoire photographique, en fait, des agriculteurs dans les champs. Donc c'était volontaire, hein, c'était pas du tout obligatoire, mais à la fin de l'entretien, en fait, je leur demandais de prendre une photo de eux, et c'est eux qui choisissaient le cadre, tout le temps. Alors c'est pas la photo comme résultat qui m'intéresse ici, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'ils voulaient montrer de eux, et qu'est-ce que ça révélait un peu de leurs idéotypes. Alors je vous ai mis quatre figures ici. Vous avez ici un jeune, Mossi, donc c'est quelqu'un qui vient du Nord, qui on faisait l'entretien donc dans sa case qui est ici, on a fait plusieurs centaines de mètres, qu'il voulait absolument posé, vous voyez, à côté de sa fosse à fumier, qui est vraiment pour lui le symbole extrêmement important, en fait, du renouveau agricole. Il se présentait vraiment comme un moderne, comme quelqu'un qui allait lancer une nouvelle dynamique pour les agriculteurs. Et même quand il pose, vous voyez, la daba, qui est un instrument traditionnel, en fait, pour comment travailler la terre, il l'a posée à côté, il l'a cachée, il n'a surtout pas cherché à la montrer. Et puis on voit derrière les structures spatiales, vous voyez, le parc arboré, qui est l'héritage un petit peu de... l'apport pour la graisse animale, la graisse végétale, etc. En fait, c'était pas du tout quelque chose d'important. Dans le même village, quelqu'un qui est originaire, qui est lié au système foncier, complètement un autre discours, une autre représentation, où là, en fait, lui, par exemple, quand on voit que c'est une des campagnes cantonnières, la première chose qu'il m'a dit, c'est le coton, c'est fatigant. C'est-à-dire que pour lui, cette sorte de modernisation, c'est pas du tout quelque chose qui lui convenait du tout. C'est la force animale, c'est ça l'avenir, parce qu'il n'avait pas encore de traction animale, il faisait tout à la main. Donc il est encore complètement dans un autre système. Derrière, le parc arboré, vous voyez, qui est beaucoup plus dense que dans le premier cas. Et mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est comme il a le lien au système foncier, c'est qu'il est sur des terres beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'il est sur des terres argilo-sableuses qui sont faciles pour le travail à la main et qui aussi ont des rendements beaucoup plus intéressants. Donc voilà pour la première opposition qui te permet un petit peu de revenir sur les catégories avant qui étaient un petit peu montrées de manière statistique. Et puis, il y a aussi, derrière ce foncier qui est en pleine mutation, face à ces très fortes évolutions, il faut bien imaginer que la personne qui distribue les droits d'usage, elle est soumise à des pressions de plus en plus importantes. Et ben, il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut surtout pas négliger dans cet élan un peu de la modernité où on croit que tout aurait été balayé. Il y a on a parlé tout à l'heure du côté symbolique. Et on voit aussi qu'il y a un rôle symbolique très fort de l'animisme qui est lié au système foncier sur la distribution des terres. Et ici, vous avez un jeune agriculteur hein, donc, qui avait 30 ans. On a fait quasiment 1 km de marche. Et lui a voulu poser devant quoi, en fait, derrière ce que vous avez, c'est un bois sacré familial, où en fait, il y a énormément de rites qui sont associés, qui rythment aussi le calendrier des cultures. Et ça, pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement important à montrer et à discuter. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de relativement intéressant pour montrer peut-être un autre visage un peu de ces campagnes. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui négligeait, bah, pas qui négligeait, c'est pas le bon terme, excusez-moi, qui, au contraire, cherchait à faire table rase de cet héritage coutumier du droit d'usage, du lien au chef des terres, de la communauté locale, qui pose avec son enfant. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les plantations, notamment de cacao, en Côte d'Ivoire, qui revenait depuis 3 ans dans le village de sa famille. Et lui, clairement, il exprimait « nous sommes serrés ». Donc, il cherchait véritablement à un peu enlever toutes les personnes qui étaient venues coloniser sa terre. Il le disait vraiment comme ça. Et lui, il pose à côté de quelque chose qui est en train de bouleverser ses campagnes, c'est le jatropha, qui est une plante pour ligneuse pour l'huile. Et en fait, c'est un grand changement puisqu'il plante des ligneuses, qui étaient complètement interdits dans tout le système traditionnel au Burkina Faso. Et ça, il se le permet parce qu'il est en lien, une forte proximité dans ses relations sociales au chef des terres, en fait. Et ça, par exemple, dans les villages, c'est un symbole très fort puisque les personnes qui sont en lien et très proches du système de distribution des terres dans le droit d'usage ont le droit de faire cette culture du ligneux. Qui dit ligneux, ça veut dire qu'il y a un droit d'usage qui se fait plus de manière saisonnière, mais qui est beaucoup plus sur le long terme. Donc ça transforme, l'usage transforme petit à petit la règle du système foncier local. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez important. Donc voilà un autre exemple, un petit peu des liens entre les représentations. Donc là, une exploitation mécanisée, une des premières, avec un tracteur qui est arrivé 2 ans auparavant, une grande exploitation, 44 hectares, et vous voyez où le parc arboré est petit à petit en train de disparaître parce qu'il n'a plus de fonction, en fait. C'est un petit peu, je fais une mauvaise analogie, mais c'est comme chez nous, un petit peu avec la haie. Et puis, dans ces mutations de l'espace cotonnier qui est un petit peu en train de se saturer, eh bien, on a l'arrivée, et donc ça, c'est un travail qui est en cours, malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour l'instant de refaire des missions importantes, mais c'est l'arrivée de la haie aussi qui est en train d'arriver, puisque petit à petit, une individualisation du travail, une nucléarisation des familles. Et puis, l'arrivée, comme il y a le droit de planter du jatropha, que vous trouvez un petit peu, on ne le voit pas très bien, mais il y a une sorte des limites qui sont en train d'être posées petit à petit, de peur de perdre le droit d'usage face à l'arrivée notamment des migrants qui arrivent toujours du nord. Donc c'est une sorte de réaction un petit peu à ce qui est en train d'arriver. J'ai été amené à parler de cet espace agricole qui est structurant et je pense qu'il est extrêmement important à comprendre parce qu'on a pas souvent des images en fait de cette agriculture. On voit un petit peu l'agriculture familiale cotonnière comme ça, mais ça permet de donner une étiquette un peu plus précise. Ce qui est important, et pourquoi j'ai parlé de la brousse et de la savane, mais aussi du feu, c'est que quand on a cette lecture-là, un petit peu seulement sur l'espace cultivé, eh bien, en fait, on omet du moins, tout un prisme de cette campagne qui est lié aux brousses et à la savane et aux espaces protégés. C'est ça moi, qui m'a notamment intéressé avec mon parcours d'écologue, c'est que tous les grands espaces protégés hérités de l'époque coloniale, en fait, ils ont aussi des effets sur tous ces pourtours de champs. Vous voyez notamment ici des arbres arrachés par les éléphants dans les pourtours des aires protégées. Au fond, là, vous avez tout juste l'air protégé. Et puis aussi des grandes cases de champs qui se mettent très loin des villages pour pouvoir accroître le degré de surveillance des parcelles qui sont en fait de plus en plus saccagées par les éléphants dans cette région. Grosso modo, vous voyez en gros au début très faible. Donc là, vous avez un petit schéma qui représente en fait l'espace protégé de ce côté-là avec les explications. Et puis de l'autre côté, l'agriculture familiale, comment est-ce qu'elle évolue avec petit à petit une densification de l'espace rural, de très forte transformation des systèmes agricoles. Et puis, de l'autre côté, non pas, comme on pourrait le croire petit à petit, l'agriculture qui viendrait petit à petit aux portes des espaces protégés. Non, bien au contraire. Et c'est ça qui était intéressant à voir, c'est que en fait, il y a eu un retour de certaines lois, notamment à partir des années 95, qui ont exclu les paysans de ces espaces protégés. Et quand on parle de ça, ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de scission aujourd'hui en disciplinaire, où d'un côté, vous avez les géographes, les agronomes qui travaillent sur l'espace agricole, et puis de l'autre côté, vous avez les écologues en fait, qui travaillent sur les brousses et les savanes. alors que, en fin de compte, c'est bien la même histoire dont on parle. Et c'est pour ça que je me suis donc intéressé au feu, parce qu'il permettait en fait de discuter de qui est-ce qui produit aujourd'hui ces formes dites naturelles un petit peu protégées aujourd'hui. Alors, comment est-ce que j'ai étudié cette dynamique que j'ai appelée conflictuelle des feux, hein, parce que c'est bien une opposition entre l'État et les paysans qui dure depuis plus d'un siècle, et ça, faut vraiment en être conscient. C'est que si on reprend cette même espace régional que tout à l'heure, là, vous avez une carte en fait des différents feux, avec en vert, ce sont les feux qui sont au tout début de saison. Et plus vous allez vers les gammes chaudes, plus ce sont des feux qui vont brûler en fin de saison. Donc, qui dit feu en fin de saison sèche, ça veut dire qu'ils brûlent sur de la biomasse beaucoup plus sèche, donc ils vont être un petit peu plus importants. Et ça génère des processus écologiques complètement différents. On parle de feu, on pourrait croire que ça détruit toujours la végétation. Eh bien, en fait, non, ça la structure véritablement. C'est-à-dire que tous les feux passent tous les ans quasiment. On va le voir par la suite. Et puis le symbole, c'est-à-dire que certes, on peut cartographier grâce aux satellites les feux, mais c'est aussi, voilà, dans les villages, ce que vous voyez comme type de pancarte, c'est les feux de brousse, pas chez nous. Et alors, on pourrait se dire, ah, oh, c'est juste, non, il n'y a pas le droit de pratiquer le feu, mais vous voyez que c'est pas que le feu, il n'y a pas le droit de pratiquer. Cette figure-là, c'est l'autorité coutumière, vraiment mise en scène. Et c'est ça qui est aussi contesté par l'État. Quand l'État lutte, veut lutter contre les feux de brousse, ce n'est pas seulement lutter contre ce qu'on pourrait croire comme une mauvaise pratique seulement, c'est aussi tenter de lutter petit à petit à un système de gestion locale du foncier, puisque l'État petit à petit veut chercher à insuffler des règles un peu plus normatives et plus globales sur l'ensemble de l'État. Ce qui aujourd'hui est très loin d'être le cas. Donc un exemple de feu, et ça c'est extrêmement important à comprendre, aujourd'hui si les feux sont toujours condamnés, c'est parce qu'ils sont dans la représentation et pour les naturalistes qui défendent les gestionnaires de l'environnement, ça serait en fait quelque chose qui détruirait un petit peu la ressource, le potentiel écologique des écosystèmes. Et c'est pour ça, en fait, en refusant le cycle culture jachère, les agriculteurs oublieraient complètement un petit peu les ressources sur lesquelles ils y sont. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est important, c'est le temps. Le temps, puisque quand un feu brûle sur un espace suffisamment humide, il va jamais, en fait, brûler l'arbre qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours autour du houppier, en fait, la biomasse est un peu plus humide et du coup, le feu va parcourir tout ce qui est à côté. Et ça va permettre notamment de nettoyer tout ce qui est les mauvaises herbes, etc., qui sont trop sèches, pas bonnes pour le bétail. Et derrière, il va y avoir une repousse très rapide, en fait, la bonne strate graminienne pour le bétail. Comme tout à l'heure, c'est que le feu devient un nouveau symbole de la qualité des milieux savanicoles, hein, puisqu'en fait, il va permettre de maintenir dans les espaces protégés les ressources en fait, de l'État, en fait, pour un peu vanter sa politique environnementale qui est très souvent mise à mal par les organismes et les politiques environnementales globales. Et les enjeux spatiaux, en fait, c'était de comprendre un petit peu ces feux, est-ce qu'ils sont si mal gérés que ça? C'est-à-dire, est-ce que comme il y a eu le coton, la modernité, il y a une représentation un peu comme quoi les paysans auraient oublié la bonne gestion par le feu, etc. Donc ça, c'était intéressant à questionner pour un géographe, c'est quelle va être un petit peu la dynamique de ces feux, comment est-ce que c'est parcouru? Et puis, donc moi, je me suis intéressé notamment, il y a différents domaines qui se sont intéressés à ça, au feu, et c'est essentiellement comme je vous disais au départ, c'est pour ça que je suis écologue, mais c'était essentiellement de la biogéographie, des gens vraiment qui lisaient les structures spatiales. Est-ce que c'est des grands feux qui sont dévastateurs, des petits feux? Est-ce que c'est des feux qui sont liés plutôt au climat, simplement? Et à chaque fois, en fait, on oublie, dans toutes les explications sur les feux, très rarement, en fait, la personne, les sociétés qui mettent le feu, en fait, sont quasiment jamais abordées. Et c'est ça qui m'a véritablement intéressé dans le travail. Alors, dans cette gestion de l'environnement, un des premiers travaux qu'on peut faire, donc vous avez ici l'Afrique de l'Ouest avec les feux, en fait, comment est-ce qu'ils arrivent, donc ils sont là à une échelle sous-continentale, on voit un petit peu une sorte de vague climatique, mais si on s'intéresse à une échelle régionale, donc vous avez ici, en fait, différentes saisons de feu où j'ai cartographié, en fait, une sorte de trajectoire moyenne, comment est-ce que les feux parcouraient la région. Et on s'aperçoit, en fait, que alors qu'une hypothèse climatique aurait pu croire, si on négligeait complètement les paysans, hop, il y aurait eu un trajet comme ça, en fait, petit à petit, des feux. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait, une trajectoire toujours identique, et puis deux, ça ne suit pas le climat. Donc ça nous a beaucoup interrogés. Beaucoup interrogés, pas tant que ça, mais du moins, ça remettait beaucoup en cause énormément d'explications sur le fait que ça soit anarchique. Parce que, un, ça se répète, et puis deux, en fait, ce n'est pas purement climatique. Une deuxième chose qui nous a intéressés, donc si vous avez une carte, qui présente en fait par une sorte de maillage où vous avez à chaque fois l'occupation du sol et puis la topographie. Parce que ça, c'était extrêmement important à comprendre. Derrière chaque fois ces structures un petit peu du paysage, du modelé, j'essaie d'aller voir en fait comment est-ce que les feux brûlaient. Derrière chacune de ces catégories de paysages très objets, là on est loin un petit peu des sociétés, mais vraiment sur l'objet, et en fait on s'aperçoit que pour chacune des catégories, il y avait une sorte de dynamique qui fait que les feux, qui étaient les premiers allumés, sont sur les sols les plus squelettiques, sur les hauts démodelés, puis petit à petit, en fait, on va retrouver des feux qui sont plutôt dans les vallées, sur des endroits qui vont sécher en fait plus lentement. Et donc on rencontre en fait une régularité assez importante qui est très reliée en fait aux pratiques du feu et de l'élevage où on va brûler petit à petit les parcours pastoraux pour essayer d'avoir un regain optimal et très rythmé en fait au cours de la saison sèche. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait. Par contre, le gros problème de ces analyses, comme tout à l'heure pour les paysages sur le coton, on a des structures spatiales, mais c'est très dur de les relier à chaque fois aux pratiques. Et mais qui est-ce qui produit un petit peu ces feux? Si je n'ai pas parlé d'enquête sur les feux, s'il y a bien une raison, comme vous en doutez, c'est que c'est un conflit en tant que petit Français d'aller dans ces campagnes, d'affaire des questions sur les feux, c'est quasiment impossible, d'où l'intérêt aussi d'avoir une analyse sur l'espace qui est assez importante. Et en fait, avec des systèmes informatiques, on peut générer en fait des fausses sociétés. Je le réduis très, très succinctement, et société c'est un bien grand mot, mais des individus qui mettent le feu à un paysage virtuel. On met notre hypothèse dans ce schéma informatique et on essaie de voir est-ce que notre hypothèse qui correspondrait à des feux qui sont essentiellement pastoraux, qui brûlent en fonction de la toposéquence petit à petit, est-ce que ça fonctionne ou pas si on fait cette hypothèse-là et qu'on le met à l'échelle régionale. Et en fait, donc voilà les cartes qu'on obtient. Vous voyez la figure simulée, un feu qui représente un petit peu la carte de tout à l'heure des feux, où en fait le simulé ressemble énormément à la réalité, c'est-à-dire que l'hypothèse qu'on pouvait faire sur la base de ce qu'on observait localement, ben on arrive à reproduire en fait une structuration régionale de cet espace des feux. Donc ça, c'était assez intéressant à pouvoir caractériser. Donc vous voyez ici, notamment, vous avez la courbe des satellites des feux, qui sont souvent analysés en plein endroit, et puis la courbe simulée, en fait, qui lit très très bien. Donc ça veut dire que notre schéma, notre hypothèse, qui était seulement locale et qui reposait sur des enquêtes très partielles, pas forcément bonnes, bah, ce système-là, si on croise en fait analyse spatiale et enquête partielle, on arrive un petit peu à montrer la production des brousses et l'entretien des brousses par un geste paysan dans ces campagnes, en fait. Donc suite à cette partie sur les feux, où en fait, ce qui était intéressant, c'était d'aller voir dans ces campagnes-là, dans les endroits en dehors des zones agricoles, notamment liées à l'élevage, à une pratique qui est extrêmement structurante pour les systèmes écologiques, on voit que le geste paysan est extrêmement important. Je n'ai pas été voir directement, on a bien entendu, mais c'est très dur aujourd'hui de l'avoir. Il n'y a que quelques anthropologues qui nous rapportent aujourd'hui des entretiens sur ces pratiques du feu dans ces espaces. Mais on arrive à voir en fait que dans les espaces protégés, soi-disant propriété de l'État, et bien en fait, ce sont les paysans qui entretiennent les faciès de savane pour la protection de la nature. Donc une sorte de contradiction entre le système foncier qui est quasiment de la propriété et puis l'entretien qui se fait par l'usage des paysans. Donc cet outillage qu'on pourra rediscuter peut apparaître assez lourd, mais ce que je trouvais intéressant dans une dernière partie, c'était un petit peu d'aborder la question de un petit peu pourquoi encore faire de l'environnement en géographie, puisque c'est un petit peu quelque chose qui dure depuis longtemps. On peut se souvenir notamment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les lectures des travaux de Nicole Mathieu ou de M. Jolivet sur du rural à l'environnement, etc. C'était très structurant dans mon parcours. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qui est donc dans cette filiation-là, c'est aussi d'analyser les données spatiales dans les endroits où il y a très peu de statistiques. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images et peu de données et beaucoup de fausses interprétations. Donc il y a un ouvrage phare que je pourrais conseiller aux étudiants, notamment s'ils s'intéressent aux espaces, ça s'appelle Misreading the African Landscape. Justement, c'est sur un petit peu le lien entre homme-milieu et puis l'administration coloniale, comment elle a construit un nouvel environnement qui n'était pas du tout lié avec les pratiques agricoles et pratiques paysannes. Et aujourd'hui, ça se traduit notamment par des atlas de l'Afrique et des aires protégées. Vous avez ici le parc du W, où vous avez ici la même image des années, donc c'est 72 et puis 2008, si je ne me trompe pas. Et vous voyez en fait qu'il y a une sorte d'entité qui arrive en fait, une sorte de forêt qui arrive. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde décrit en fait, derrière ces deux images-là, la pression croissante des agriculteurs. Mais en fait, c'est là où c'est hyper important d'avoir des études de cas locaux avec une durée relative, mais pour un géographe, au moins plus d'un demi-siècle, où on arrive à voir, en fait, y compris dans ces espaces-là, en fait, c'est que c'était cultivé en fait, dans les années 70. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc ça, c'est extrêmement important, je pense, aujourd'hui, d'avoir un travail sur ces structures spatiales, sur ces données géographiques. Des données en adéquation au questionnement scientifique aussi, c'est extrêmement important, parce que toutes les données satellites sur les feux aujourd'hui, elles sont produites pour la conservation de la nature. Et donc, faut aussi aujourd'hui, pour les géographes, je pense que c'est extrêmement important de se positionner pour que ces données-là aussi elles puissent être utiles pour comprendre les pratiques et comment les paysans en fait, sont responsables de la production des paysages, et pas toujours rester dans cette sorte d'héritage un peu de l'Afrique naturelle. Ça paraît grossier, mais c'est quand même assez important. Et puis, dans ce qui me semblait aussi important, c'est aussi les limites des données et puis les échecs, le rapport au terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des étudiants ici. Et au début, moi, j'étais parti vraiment pour aller faire des enquêtes sur les feux. Et ça s'est avéré extrêmement compliqué parce que les paysans, en fait, donnaient toujours des positions légitimes ou qui s'avéraient, en fait, trop simples. Et en fait, ce n'était pas du tout la réalité de leur pratique parce qu'en fait, il y avait une sorte de défiance par rapport à la personne extérieure. Et puis enfin, un dernier point, c'est sur appréhender aussi, je pense, dans le parcours que j'ai pu avoir. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé en géographie, c'est le travail sur les échelles. Et ce travail sur les échelles, c'est certes sur les objets et les processus, mais c'est aussi sur la manière dont on a abordé les objets qu'on étudie. Et donc là, il y a un schéma, en fait, avec tout ce qui est les éléments plutôt matériels, la phase représentation. Moi, j'avais essayé de croiser une approche un petit peu... Au milieu, ça ne veut pas dire global, loin de là, hein, c'était surtout pas la prétention, mais en me positionnant en fait avec, ni pas forcément sur les côtés naturalistes avec des échelles larges qui négligent un peu le geste paysan, ni dans une approche trop locale où les anthropologues sont énormément sur la pratique du feu, ou très peu, mais ceux qui y sont que sur un ou deux villages, mais en fait on ne sait pas du tout ce qui se passe globalement. Ils négligent complètement par exemple les politiques environnementales et leurs effets aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, une géographie plutôt anglo-saxonne de la political ecology qui essaie de croiser des études de cas locaux avec les discours globaux. Ça m'a beaucoup intéressé, et notamment ça m'a intéressé par rapport à la géographie rurale ici, où en Afrique de l'Ouest, il y a une géographie tropicale, de l'approche des terroirs, de la place des structures agraires de Sauterre et de Pélissier qui est extrêmement importante, qui est extrêmement stimulante, mais qui est aujourd'hui très peu représentée. Il y a très très peu de personnes maintenant sur ces travaux-là. Et puis, surtout, il y a un manque de recul historique sur l'évolution de ces terroirs. Donc, je pense que c'est quelque chose à réinvestir. Il sera très intéressant. Et puis, ces coupures un peu entre les échelles d'observation des phénomènes, elles se traduisent aussi par... je vous ai mis un petit graphique sur le temps, un petit peu comment est-ce que les gens travaillent sur le temps et puis sur les espaces, à quelles échelles d'observation. Cette coupure, elle se retrouve aussi sur le feu, très caractéristique, avec des approches sur les sciences humaines et sociales qui abordaient toujours le feu sur les raisons du feu, pourquoi les gens pratiquent le feu à des échelles locales. Et puis de l'autre côté, on avait des études très globales sur les changements climatiques, sur l'évolution des biomes, etc., mais qui s'intéressaient non pas aux raisons, mais aux conséquences du feu. Donc le fait d'essayer de se positionner en géographie un petit peu à l'interface, c'était aussi une tentative pour essayer de relier un petit peu pourquoi ils brûlent, mais aussi quels sont les effets. Et donc en montrant la régularité, ça permet un petit peu de discuter, de relier un petit peu ce phénomène, et pas de le restreindre à un processus purement biophysique. Donc ce que j'ai essayé de montrer ici dans ce travail sur donc la première partie plutôt sur les campagnes cotonnières avec la saturation, et puis comment ça pouvait, une lecture locale et le lien avec l'analyse spatiale, ça pouvait permettre un petit peu de donner des nouveaux axes de lecture sur ces campagnes. Il y a une démarche globale à chaque fois qui est extrêmement importante, que j'ai eu aussi dans la deuxième partie, c'est sur le feu, c'est d'analyser à chaque fois les représentations sociales de l'environnement, soit la brousse, la savane, ou alors les feux, est-ce que c'est les impacts ou alors les usages. Et puis ça me permettait de guider une analyse, comment est-ce que je cartographie, on peut cartographier plein de choses, mais le sens dont on donne à la cartographie et le lien qu'on fait à cette représentation était extrêmement importante pour moi. Comment on problématise la fin des brousses, est-ce que c'est quelque chose de forcément malthusien, déterministe, etc. Non, en fait on se rend compte que si on va un peu plus loin, c'est pas forcément le cas. L'analyse spatiale a permis justement d'aller vers plus de ça, surtout dans des endroits où il y a très peu de données. Et puis à la fin, une dernière phase qui permet un petit peu de donner des axes de lecture peut-être un petit peu renouvelés sur les paysages et sur les aménagements présents dans ces espaces. Plus thématiquement, voilà moi ce que j'ai réussi un petit peu, je pense, à montrer dans ce travail de thèse, c'est un petit peu la régression des brousses, c'est cette sorte de... comme s'il y avait un point final un petit peu, un blocage. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de processus de gestion, et notamment le foncier, qui va être un des thèmes là, que je souhaite développer par la suite dans mon travail de manière beaucoup plus fine. Et là, il est extrêmement important pour comprendre un petit peu les évolutions de ces paysages. C'est évident, je vais un petit peu montrer, mais il y a plein de choses qui sont à développer parce que en faisant qu'un seul village ou que 10 villages, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de variété en fait de gestion des systèmes fonciers. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, à aller voir. Et puis de croiser ça, ce regard sur la régression des brousses, plutôt agronomie, agriculture, avec les feux qui sont plutôt liés à des disciplines comme l'écologie. En croisant les deux, eh ben, on se rend compte en fait des contradictions aussi qui existent actuellement. C'est-à-dire qu'entre le feu, qui est essentiellement un élément plutôt écologique, environnemental, et les brousses, on se rend compte que les aménagements aujourd'hui, toutes les grandes forêts protégées, qui c'est loin d'être négligeable, hein, ça représente quasiment 25% de l'espace régional, bah, peut-être pas 25%, mais ça doit être 18% de l'espace régional, eh ben, en fait, ces aménagements qui sont voulus, c'est un petit peu ma conclusion sur le maintien des formes de savane, une vision très écologisante des campagnes qui néglige toujours et encore le geste paysan, en fait, ils évoluent, mais pas du tout au regard de ce qu'on pourrait croire d'une dynamique purement écologique, mais bien au regard d'une pratique paysanne qui est toujours cachée par les paysans qui n'osent pas en parler, et aussi cachée par l'État et les administrations actuelles qui refusent de voir en fait le geste paysan dans les faciès qui se protègent aujourd'hui et qui font les vitrines un petit peu de la protection de l'environnement au Burkina Faso. Voilà, je vous remercie.